Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette très courte introduction. Je vous propose de consacrer, c'est encore une fois, cette très courte ouverture à cette journée consacrée à Hong Kong pour présenter rapidement celui grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui. Souligne en particulier son parcours assez exceptionnel du professeur Wang Zhang, que nous sommes très heureux d'accueillir au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme, où il a créé et dirige depuis 2 ans un séminaire de recherche sur la Chine et la modernité en Chine, et en particulier modernité et transition en Chine aujourd'hui. Alors, pour le présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas bien son parcours, pendant les années 80, il a été très engagé dans la réforme et les activités intellectuelles en Chine en tant que jeune universitaire. Il a en particulier participé au mouvement de protestation de la jeunesse chinoise en 1989, en particulier sur la place Tiananmen. Il choisit alors de s'exiler en France, pays dont il ne parle pas la langue. Il réapprend complètement... il apprend le français, il reprend des études de sociologie, il fait une thèse de sociologie. Ah, il a traduction, en effet, une traduction en chinois, donc il faut que je parle un petit peu.
Non, mais je dis que ça me gêne un peu que vous parlez de moi. C'est que...
Donc, une petite introduction. C'est bien aussi de temps en temps, une petite introduction sur... Je vais aller vite alors, je ne vais pas détailler ça. Il fait une thèse quand même de sociologie sous la direction d'Alain Touraine, devient professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise quand même. Il devient un spécialiste reconnu en sociologie de la Chine en France, et en particulier la sociologie des mouvements sociaux en France. Mais si Wang Zhang a quitté la Chine, il n'en reste pas moins très proche, et il écrit régulièrement, en particulier des livres, mais aussi une BD. Il a publié une BD sur Tiananmen et sur son rôle sur la place Tiananmen en mai dernier, pour les 30 ans de Tiananmen. Il publie aussi régulièrement des articles, par exemple dans BBC China, qui connaissent un très fort écho. Et un recueil de ses articles a été récemment publié en français sous le titre « La Chine désorientée ». Donc, qui éclaire de manière particulièrement fine les évolutions et les processus politiques et sociaux actuellement à l'heure en Chine. On y voit d'ailleurs à quel point il sent les évolutions et les anticipe, et en particulier en 2013, il écrivait déjà à propos de Hong Kong. Je ne vais pas le citer ce matin, parce qu'il ne va pas vouloir que je passe trop de temps pour cette courte introduction. Mais en tout cas, on veut absolument le remercier pour l'organisation de cette journée, pour l'invitation de tous ceux qui participent aujourd'hui à cette réflexion sur Hong Kong, et dont certains ont traversé le continent spécialement pour cette journée.
Tu as cité le paragraphe que j'ai écrit sur Hong Kong, prévu. Ah bah si tu veux, tu
ah
peux
bah
lire
c'est oui,
ça.
Alors,
ça, j'aime bien que tu...
Il vérifie mes notes et D'accord. Et donc, j'ai été vite à sa demande, mais finalement, je vais quand même le citer à propos de Hong Kong, puisque je disais qu'il avait été visionnaire. Donc en 2003, à propos de Hong Kong, il mettait en avant la tendance à la division entre la cité-État et la Chine continentale, je le cite. Pour éviter de se diriger vers une scission complète qui provoquerait une récession et des troubles, le seul choix possible est que Pékin fasse preuve de sincérité et de vision à long terme en mettant rapidement en œuvre la démocratisation de Hong Kong. Sans quoi, écrivait-il, cela risque de détruire la conception d'un pays, de système. Donc on voit que l'analyse avait un côté visionnaire quand on observe les mouvements de protestation à l'œuvre depuis le mois d'août. Et je vais laisser cette journée s'ouvrir. Et remercie encore une fois Wang Zhang pour son organisation et pour l'invitation de certains d'entre vous qui ont encore une fois traversé le continent pour venir ici aujourd'hui. Je laisse Wang Zhang les présenter. Merci à tous. Au nom de la Fondation Maison des Sciences.
Notre chère directrice fait une telle présentation, du coup, ça me gêne beaucoup. Voilà. Donc, j'en profite de cette occasion d'abord pour la remercier, parce que sans son soutien, sans le soutien du Collège d'études mondiales, on ne peut pas organiser ce colloque. Je vous adresse mes remerciements sincères. Ensuite, je profite de cette occasion aussi pour remercier tous les collègues du Collège d'études mondiales, vous voyez, en train de œuvrer pour Thomas, Thès, Gilles, Maxime, tous ces gens en train de vous accueillir, ils ont fait des choses pour que cet événement soit réalisé aujourd'hui. Bon. Je vous dis deux, trois mots simplement. Tout à l'heure, Mme Directrice a déjà parlé d'un article que j'ai écrit il y a 6 ans. Cet été, j'étais assez attristé de voir tout ce que j'avais prévu à l'époque sont en train de concrétiser. Bon, en même temps, personnellement, je ne peux pas faire grand-chose. Vous pouvez voir, vous pouvez imaginer à quel point, avec la distance, chaque jour à travers l'écran de la télé, de voir l'histoire en train de se réaliser comme ce que tu as prévu, mais en même temps, tu ne peux pas faire grand-chose. Voilà, c'est ça, c'est le côté cruel de l'histoire. C'est quelqu'un, j'ai écrit plusieurs textes, deux sont traduits en français dans le recueil dont madame a mentionné, La Chine des Orientés. C'est quelqu'un qui, je ne suis pas en train de vendre les livres, mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez le voir. Donc, je suis très content qu'on a fait venir trois éminentes intellectuelles, Hong Kongais. Je les remercie de faire des efforts d'être là. Je remercie aussi les deux éminents sinologues français. En France, je pense que tout le monde les entend très souvent. Voilà. Monsieur Jean-Philippe Béjart et Michel Pondin, pour d'avoir accepté de participer à ce colloque, partage l'observation et l'analyse sur cet événement. Personnellement, je vais dire deux ou trois mots de ma part. Vous savez que l'histoire, hier on a parlé, le soir on a dîné ensemble, on a parlé un peu de l'expérience de touriste en Europe. On a quelqu'un qui a mentionné le Venise. Vous savez que dans l'histoire de l'Europe, à travers les périodes sombres européennes, Venise en tant qu'une cité, comme un phare pour la civilisation européenne, qui incarne l'esprit républicain, et aussi cet esprit de liberté de la cité. Si on résume l'histoire politique européenne, peut-être on peut regarder entre l'Empire, la cité, cette histoire alternative, peut-être ajouter aussi l'Église, résume bien l'ensemble de l'histoire politique européenne. C'est à l'époque moderne, et c'est dans la monarchie nationale, après l'État-nation, c'est les deux formes politiques, se trouve une synthèse. Et bien sûr, avec l'État-nation, la cité disparaît, après l'Empire disparaît aussi. Mais l'esprit de la cité européenne continue dans l'époque moderne, dans la démocratie, c'est-à-dire que c'est l'esprit de liberté. Je pense que on peut faire un peu de parallèle avec Hong Kong. Chacun sait cette longue histoire de l'Empire chinoise. Certains grands sinologues, historiennes, tout d'un coup, je ne me rappelle plus, le Gongqi Siding, c'est comment on dit le nom Gongqi Siding, le grand sinologue japonais, là, son nom, comment prononcer, ouais. Selon lui, hein, avant l'unification de l'Empire, existait aussi une histoire de cité en Chine. Et évidemment, cette tradition de la cité ne fait pas partie de la tradition politique chinoise. C'est à l'époque moderne, sous le choc de la modernité, avec la décomposition plus ou moins successivement de l'ordre ancien impérial, émerge avec cette histoire tragique et Hangang, intrinsèquement lié avec cette histoire, émerge en Chine, à la périphérie de l'Empire. Si on regarde très bien toute l'histoire du XXe siècle, depuis un siècle et demi, Hangang joue un rôle très particulier. Je pense qu'il n'y a pas une autre ville chinoise qui contribue le plus pour l'histoire de la modernité chinoise que Hangang. Ce qui se passe en Hangang, il y a toujours un impact profond, direct ou indirect, sur le parcours de l'histoire contemporaine, moderne de la Chine. Vous savez qu'on dit que depuis plus de 100 ans, chaque fois on rencontre une année avec neuf, il y a toujours un événement important de se produire. Cette année, 2019, je n'ai pas échappé à cette règle. Ce qui se passe en Hangang, je pense, il y a une part très profonde, pas simplement pour le destin des Hangangais, mais aussi pour l'avenir de la Chine. Je pense que le futur de l'histoire, l'histoire de l'avenir prouvera ce que je viens de dire. Et c'est aussi pour cette raison, je pense que j'ai hâte d'écouter les intervenants, comment ils pensent leur observation sur cette histoire. On est en train d'assister à un tournant d'une ville, une cité particulière, où prennent c'est de l'esprit de liberté, même si sans démocratie. Mais maintenant, on est peut-être en train d'assister à la mort de cet esprit de liberté dans cette ville. Ce père oriental en train de s'éteindre d'une certaine manière, c'est ce que je constate. On regarde plus, on ne voit plus cette cité comme on voit forcément une page historique en train de se tourner. Mais je ne suis pas si pessimiste à l'avenir, en long terme, parce qu'une nouvelle génération d'acteurs sont nés. Ce désir profond de la liberté, je pense que ça va continuer, règne sur Hangang. J'espère aussi un jour pour la Chine continentale. Cette cité, à travers les luttes de ses habitants, peut-être un jour va naître une grande cité, pas simplement avec la liberté, regagner la liberté, et aussi avec un esprit démocratique dont pas les Hangangais et aussi les Chinois tout l'ensemble a besoin. Au moins, c'est ce que je souhaite. Voilà. Je m'arrête là. Maintenant, on va attendre les années venant. Merci beaucoup.